On n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahinck, courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la chronique On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech, hashtag WAPI, O-A-P-I. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Hainaut, président de Before Deal, plateforme de crowdfunding immobilier. Bonjour Vincent.
Bonjour Céline.
Alors, on est tous d'accord pour dire que le crowdfunding immobilier est devenu une classe d'actifs à part entière. C'est quelque chose qui se démocratise. Les gens commencent vraiment à avoir le réflexe d'aller voir ce qui se passe et d'investir. On sait, quand on est conseil ou investisseur, qu'il faut regarder un petit peu de près hein, pour voir sur quel type de montage on est, sur quel véhicule on souscrit, véhicule d'investissement, parce qu'il y a aussi différents types de porteurs de projets. Et tout ça fait que il y a du risque intrinsèque. Donc, on va regarder avec Vincent quels sont les risques macro, micro, classiques, j'aurais envie de dire, en crowdfunding immobilier. Mais avant ça, je voudrais commencer par un petit coup de gueule, une fois n'est pas coutume, parce que donc, par rapport à ce risque, face à ce risque, les plateformes essayent bien sûr de prévenir au maximum ces risques dans le cadre des relations entre les investisseurs et les porteurs de projets et donc sont amenées à mettre en place certains types de garanties, cautions, sûretés. Or, des fois, moi, je m'aperçois que il y a, par exemple, un type de garantie qui peut être mis en avant sur un porteur de projet, alors que celui-ci a également et concomitamment donc un financement bancaire. Et on s'aperçoit que cette garantie, en fait, même si elle est mise en œuvre, peut-être qu'elle aboutit pas au résultat qu'on souhaiterait. Donc, je voudrais aujourd'hui reclarifier les différents outils qui sont à notre disposition, les avantages et les limites qu'ils peuvent avoir.
On n'arrête pas l'IMO, l'invité.
Donc, Vincent, bonjour. Et donc, on va attaquer pour rappeler les différents risques macro, micro, en crowdfunding immobilier, d'une façon assez succincte, hein, bien sûr.
Alors, fondamentalement, le risque qu'on a sur le crowdfunding immobilier, c'est, comme pour la majorité des investissements dans le non-coté, c'est un risque de perte en capital et un risque d'illiquidité. Liquidité, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir disposer des sommes dont on a investi, dans lesquelles qu'on a investi quand on le souhaite. Donc, de façon assez classique, une opération en crowdfunding immobilier, c'est en moyenne 18 mois d'horizon d'investissement. Le risque, c'est que y a des décalages et que au lieu de récupérer le capital investi plus les intérêts au bout de 18 mois, on le récupère au bout de 24, par exemple.
Le deuxième risque, c'est absolument. Ça, c'est absolument pas anormal en immobilier. Dire des intempéries, un retard de chantier, de livraison d'un sous-traitant, quelques mois de retard, de décalage, c'est tout à fait naturel.
C'est naturel, c'est intrinsèque à la promotion, à la construction. Des retards dans les chantiers, ça existe, hein, et c'est normal. Et ce qu'on a vu l'année dernière avec le Covid et un arrêt des chantiers pendant 3-4 mois, et ben mécaniquement, ça génère des décalages dans la finalisation des opérations. Ce qui n'est pas nécessairement négatif pour l'investisseur, puisque lui, il va continuer à avoir des intérêts qui courent sur cette période, mais néanmoins, effectivement, on ne dispose pas des sommes quand on veut.
Alors, les intérêts qui continuent à courir sur la quasi-totalité des plateformes. Il y a pour autant des exceptions, donc attention, investisseurs, prenez garde. Oui, d'accord. Donc, un risque, les deux principaux risques, risque de perte en capital s'il y a plantage et risque d'illiquidité. Alors, quels sont les outils? Comment on fait pour essayer de se prévenir de ces types de risques?
Alors, la première chose déjà, c'est avant de parler de garantie, c'est de parler d'analyse d'opération. Ça peut paraître assez basique, mais la première des garanties qu'on va prendre, c'est de s'assurer qu'on est sur un opérateur et une opération qui est dite fiable. Alors, il y a plusieurs catégories ou plusieurs familles de sujets hein, qui sont à analyser pour savoir si une opération peut être menée correctement à son terme. La première, c'est déjà d'avoir un opérateur qui est compétent en la matière, c'est-à-dire qui a déjà fait. Le deuxième point, c'est d'avoir un projet qui, dans ses caractéristiques, correspond bien à ce que la plateforme a défini comme étant un cahier des charges assez strict. On parle notamment, est-ce que connaissent la plupart des investisseurs qui utilisent déjà le crowdfunding, c'est le moins d'aléas administratif possible ou pas d'aléas administratifs. Hein. Si je prends une promotion immobilière, c'est d'avoir un permis de construire qui est validé et purgé, d'avoir déjà un accompagnement financier d'une banque, d'avoir déjà les assurances et d'avoir déjà également commercialisé une partie de ces lots. Donc quand on a en fait tous ces éléments-là qui ont été validés, on a déjà quelque chose qui intrinsèquement est plutôt sérieux.
Donc, l'analyse du projet et du porteur de projet, mais ça, je pense qu'effectivement, ça méritera une chronique dédiée sur ce sujet-là. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail en amont qui est essentiel, primordial, après, donc, on a une panoplie d'outils qu'on peut utiliser, garantie, caution, sûreté, racontez-nous.
C'est ça. Alors, après, une fois qu'on a analysé l'opération, on va chercher à prendre des garanties. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est pourquoi on va chercher une garantie. Il y a deux raisons pour lesquelles on va chercher une garantie. La première, ou trois même peut-être. La première chose, c'est de rassurer l'investisseur, lui montrer qu'on met en place quelque chose pour avoir une voie de recours si jamais on a une difficulté. La deuxième, c'est de garder la relation, en tout cas de maîtriser la relation avec l'investisseur, avec l'opérateur. La garantie n'a pas forcément pour objectif d'être dans une logique de traitement du contentieux, mais surtout de garder une relation, je dirais pas de rapport de force, mais de montrer que le montage est sérieux et qu'il faut considérer l'investisseur en crowdfunding comme étant aussi important finalement qu'un partenaire bancaire. Et puis le troisième objectif d'une garantie, c'est effectivement de se prémunir contre un défaut et donc de voir dans quelle mesure ou quelle garantie est la plus appropriée par rapport à la situation de l'opérateur et de l'entreprise qui réalise l'opération pour essayer de récupérer au maximum les montants qui ont été engagés par les investisseurs en cas de défaut.
Donc ça, j'entends, en fait, il y a pas. Donc sur la troisième, puisque c'est le cœur du sujet du jour, sur le troisième levier qui est donc la mise en œuvre de garanties externes, on va dire, hein, de sûreté, de caution, de garantie, par exemple autonome à première demande, il n'y a pas une solution unique. Ça va dépendre du projet, ça va dépendre du porteur de projet. Donc alors, on commence par laquelle ? La caution, par exemple ?
Alors, la caution, ce qui est important de rappeler avant de lister également les garanties, c'est que quand on étudie une garantie, il faut à la fois voir si elle est, si on peut la mettre en œuvre d'un point de vue juridique, et puis de voir également quelle est son efficacité dans le temps. Je donne cet exemple-là parce que très souvent, on voit une garantie qui est la caution du dirigeant, par exemple. Donc, la caution du dirigeant, c'est, en cas de défaut, c'est le dirigeant qui va rembourser sur ses deniers personnels les investisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la caution du dirigeant, elle peut très souvent être remise en question le jour où il faut vraiment l'activer. Hein, le jour où il faut la mettre en œuvre, c'est pas simplement la demande du remboursement du dirigeant qui va se mettre en œuvre parce qu'il est en défaut, mais il y a une décision de justice derrière en réalité. Et parfois, peut-être que le dirigeant n'est pas le plus à même à pouvoir rembourser et donc ne pas pouvoir mettre en œuvre cette garantie. Donc la première chose déjà quand on étudie une garantie, c'est est-ce que au-delà de la mettre en œuvre, je pourrais derrière l'utiliser réellement. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça, effectivement, que chaque garantie, caution ou sûreté, c'est dit au cas par cas, parce que il n'est pas dit qu'une caution puisse être réellement utilisée le cas échéant.
Donc, est-ce à dire, par exemple, que sur l'outil caution, est-ce qu'une caution sur un tiers ou une caution solidaire, c'est-à-dire plusieurs, sera potentiellement plus efficace qu'une caution sur le dirigeant ou sur le porteur de projet?
Alors oui, encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. La garantie ne vaut que par rapport à la qualité du garant. Donc plus on fait grossir en gros la masse des garants, bah, plus potentiellement, effectivement, on a la possibilité de venir récupérer les montants attendus.
Tout à fait. Pareil, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire en fait dans cette phrase de synthèse, c'est que l'investisseur, il n'a pas accès à ce genre d'informations. Il va pas savoir si le porteur de projet a une surface suffisante pour répondre pour la mise en œuvre finale de la caution si elle devait être enclenchée. Donc, vous, plateforme, vous l'avez, mais voilà, est-ce que vous avez toujours le choix ou est-ce que il n'y a pas des limites parfois? Voilà. Donc, en fait, c'était pour essayer de donner des clés aux investisseurs qui n'ont pas accès à la totalité des informations qu'une plateforme peut avoir, évidemment. Et donc, ce raccourci un petit peu, cette synthèse, c'était de dire, bon, peut-être qu'effectivement, une caution solidaire ou avec donc plusieurs personnes sera potentiellement plus efficace qu'une caution prise sur le dirigeant. Mais c'est pas...
Oui, c'est vrai. Et par rapport à la remarque, il est vrai que par rapport à la caution du dirigeant, les investisseurs n'ont pas nécessairement l'information parce qu'ils n'ont pas la définition du patrimoine, mettons, personnel voilà. du dirigeant. Donc ça, c'est vrai. Bon, pour autant, si on continue dans la catégorie des cautions, et là où les investisseurs ont de l'information, c'est quand on prend la garantie autonome à première demande. Pour rappel,
la GAPD.
La fameuse GAPD. Cette garantie autonome à première demande, en gros, c'est une caution, c'est une entité qui se porte garante, au même titre que la caution personnelle, à la place ou en lieu et place de l'émetteur, c'est-à-dire de celui qui emprunte. Là, la GAPD, généralement, elle peut être positionnée à deux niveaux. Elle peut être positionnée au niveau de la structure de tête, la holding de l'opérateur, du promoteur, et ou de la société de projet. Là, en revanche, les investisseurs ont l'information pour être capable d'avoir une notion de la solvabilité de l'investisseur, puisque de l'opérateur, puisqu'on donne en gros des synthèses hein, de bilan. Donc, on fait une photographie de la situation financière pour essayer de montrer aux investisseurs comment se situe l'opérateur. Et là, ça donne une possibilité, effectivement, de voir quelle est, à un instant T, la solvabilité du garant.
Parce que pour parler clairement, une garantie autonome à première demande va toujours arriver après la banque.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et la mise en place des garanties dans les schémas qu'on présente au niveau des investisseurs, c'est intéressant de voir qui est le garant et comment elle se positionne. La plupart du temps, la banque a une position, prend une garantie sur la société de projet. Donc, la banque est en premier rang, hein, si on parle comme ça, sur la SCCV, c'est-à-dire la société qui construit et qui est elle-même la société qui a emprunté. Et donc, la banque va s'assurer, la banque et la GFA et finalement tous les acteurs financiers autour de cette société de projet sont effectivement les premiers à pouvoir, en cas de défaut, intervenir et récupérer ce qu'ils peuvent récupérer. Si la GAPD est positionnée au niveau de la holding, en réalité, c'est bien sur toute la surface financière de l'opérateur que la garantie porte, et pas exclusivement sur la société de projet. Et donc, bien évidemment, c'est là qu'on va regarder. La GAPD n'a pas le même poids sur un opérateur qui fait 20 ou 30 opérations par an d'un opérateur qui fait 2 opérations par an.
D'accord. Donc, pour essayer de synthétiser encore une fois, une GAPD arrive toujours après la banque et la GFA et elle aura de fait d'autant plus de poids si elle est prise au niveau de la holding et non pas au niveau de la société porteur de projet qui a pris le prêt et a demandé la couverture GFA. Parce que là, il risque de plus avoir de place pour la GAPD, alors que si elle est prise sur la société mère, la holding, qui n'est pas en cofinancement, puisque c'est la société fille qui le prend, là, elle aura beaucoup plus de chances d'aboutir. C'est ça?
C'est exactement ça. En fait, la GAPD, quand elle est positionnée sur la holding, elle est vraiment autonome et elle ne porte que sur la capacité financière de la holding du promoteur, indépendamment de tous ses autres créanciers.
Bon, après, bien sûr, s'il y a vraiment un gros risque et que c'est tout le groupe qui part à volo,
c'est la GAPD arrivera.
Hein, voilà.
C'est la limite.
OK. C'est, voilà. Caution, GAPD, on en a quoi d'autre? Hypothèque, peut-être?
Alors, hypothèque. Alors, on peut, il y en a plein après, hein. Hypothèque, nantissement, fiducie. Après, il y a tout un panel de montages qui sont possibles. Ce qu'on va retrouver le plus souvent dans le crowdfunding et notamment sur les marchands de biens, très souvent sur les opérations de marchands de biens, c'est ou l'hypothèque non inscrite ou la promesse d'hypothèque. Alors, ça fait beaucoup de nuances, entre guillemets, mais pour faire simple, une hypothèque, elle est inscrite au registre des hypothèques. Elle définit quel est le rang du créancier pour, en cas de défaut, venir récupérer quelque chose. Donc là, en l'occurrence, dans l'hypothèque, pour un marchand de biens, le premier rang, c'est la banque, hein, systématiquement. On peut être en second rang, c'est-à-dire qu'en cas de défaut, bah, si, une fois que la banque a récupéré sa mise, on voit ce qui reste pour récupérer les investissements des investisseurs. Et ça, c'est inscrit. Donc, quelqu'un a payé pour inscrire cette hypothèque et il n'y a pas de difficulté à la mise en œuvre, si ce n'est le processus même de mise en œuvre d'une hypothèque et de traitement judiciaire derrière. Petite nuance, cette hypothèque, elle peut être non inscrite, c'est-à-dire que on vérifie bien quel est le statut hypothécaire de l'actif à un instant T, au moment où on fait le financement, et on sait, on valide qu'on est bien en second ou en troisième rang tel qu'on l'annonce aux investisseurs. Ceci dit, le fait qu'elle soit non inscrite, même si elle a été émise par un notaire et on valide bien le rang initial, si au bout de 18 mois on doit faire l'inscription, eh bien à ce moment-là, on peut effectivement découvrir que le second rang, ce qui était un second rang au départ, est devenu un troisième ou quatrième rang, a été pris entre-temps. Et si je termine sur la logique des hypothèques, pour vous dire simple, on a vu qu'on pouvait avoir une hypothèque réelle, une hypothèque non inscrite, on peut aussi avoir une promesse d'hypothèque. Mais la promesse d'hypothèque, c'est toujours pareil, ça reste une promesse.
C'est beaucoup plus limité. Voilà. Donc, entre guillemets, la meilleure, c'est quand même l'hypothèque réelle, avec le coût que ça génère derrière pour celui qui la prend, hein, évidemment. On disait tout à l'heure, souvent une hypothèque de deuxième rang, parce que s'il y a la banque, elle est en premier. Mais souvent, dans les marchands de biens, il peut y avoir aussi un financement en crowdfunding exclusif et donc pas avoir de financement bancaire, auquel cas, là, ce serait une hypothèque réelle de premier rang.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et il m'a semblé qu'il y avait aussi un quatrième outil qui pouvait être utilisé également sur les marchands de biens, parce que le bien est réel, enfin, il est là, il est existant, hein, au moment du… Enfin, une partie, parce qu'on est dans des travaux ou… Enfin, voilà, il y a déjà quelque chose, on n'est pas comme dans une opération de construction en VFA. J'ai vu des nantissements aussi.
Oui, alors le nantissement ou la fiducie, c'est ce qui est un petit peu différent, c'est que on porte pas sur l'actif en lui-même, à la différence d'une hypothèque où on cible bien l'actif, mais on va cibler plutôt la société et les parts sociales de la société qui détient l'actif. Et donc c'est une autre forme de garantie, mais ça vise à venir récupérer toute l'enveloppe juridique qu'il y a autour de l'actif immobilier.
D'accord. On ne peut pas avoir un nantissement, par exemple, sur une opération de marchand de biens où il y aurait un immeuble existant et le projet en crowdfunding, ce serait travaux dans l'immeuble existant et puis construction nouvelle à côté, par exemple, et prendre un nantissement sur l'immeuble existant parce que en l'état, même avant travaux, il a une valeur avec le foncier sur lequel il repose.
Oui, mais le nantissement…
Ce serait une hypothèque dans ce cas-là ?
Ce serait plutôt une hypothèque, effectivement.
D'accord.
Donc, le nantissement, c'est… sur un nantissement de part.
D'accord.
Part sociale.
OK. D'accord. Donc, si on résume très vite, évidemment, hein, les différents outils qu'on a, on a la caution. Il faudrait plutôt être sur de la caution solidaire et d'un tiers plutôt que celle du dirigeant parce qu'en tant qu'investisseur, on n'a pas forcément accès à toutes les informations nécessaires pour être sûr qu'une caution personnelle du dirigeant serait suffisante. Ensuite, on a la garantie autonome à première demande où là, on va plutôt rechercher une GAPD sur la holding plutôt que sur la société porteuse de projet, surtout s'il y a un cofinancement bancaire avec la GFA parce qu'on arriverait encore après. Et puis, pour les marchands de biens, on va plutôt être sur une hypothèque parce qu'il y a de l'existant. Et donc là, on serait plutôt rassuré avec une hypothèque réelle de second rang, voire encore mieux, de premier rang. C'est ça ?
C'est ça, il faut juste…
De façon caricaturale, bien évidemment.
C'est Oui, il faut quand même rappeler une chose, c'est que il faut pas forcément mettre en avant la garantie systématiquement dans l'analyse. Il faut bien rappeler que ce qui compte avant toute chose, c'est le projet.
C'est l'analyse et le projet, bien sûr.
C'est l'analyse et le projet et le produit. La garantie, c'est un support. C'est quelque chose qui vient en plus, mais je le répéterai jamais assez. Ce qui compte avant toute chose, c'est le projet et celui qui le mène.
Oui.
Et il faut bien garder ça en tête.
Mais moi, j'aurais envie de dire que un investissement, c'est un peu comme un mariage. C'est quand tout va bien qu'il faut prévoir si tout allait mal, comment ça se passerait.
C'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est le principe. Voilà. C'est le principe de la garantie.
Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, c'est très rapide et on aura encore beaucoup à dire, mais en tout cas, là déjà, je pense qu'on a des bonnes bases. On peut rappeler également quand même que le taux de défaut en crowdfunding immobilier, avec maintenant quand même une bonne prise de recul, hein, on a quasiment entre 5 et 7 ans de recul suivant les plateformes, donc ça commence à être pas mal. Le taux de défaut est quand même minime. On va voir là parce qu'il y a certains projets qui ont été financés en 2015-2016 sur certaines plateformes qui accusent un retard plus que conséquent. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer là. Ce qu'on peut dire sur la période de Covid, c'est que ça a été extrêmement bien géré, qu'il y a eu des bons accompagnements. Et je pense que ça a permis également aux plateformes de restructurer encore leur grille d'analyse et d'être encore plus performants là-dessus qu'elles ne l'étaient déjà. Et je pense que il y a un certain nombre d'acteurs hein, qui sont tout à fait conscients de la compétence que les plateformes ont acquise dans l'analyse des porteurs de projets, puisqu'il y a des institutionnels qui se portent vers vous pour vous confier ces analyses-là. Voilà, une belle perspective, encore une fois, pour le crowdfunding immobilier. Et alors, parlons de perspective.
On n'arrête pas l'IMO, la question sur l'immobilier de demain.
La troisième séquence habituelle de cette chronique, c'est bien sûr votre définition de l'immobilier de demain. Racontez-nous.
Alors, selon moi, l'immobilier de demain, c'est un immobilier qui va centrer plus l'humain dans la construction de la définition de l'immobilier. On le voit avec le Covid, on a passé un an à écouter en fait les envies de chacun, que ce soit dans l'univers professionnel ou dans l'univers de l'habitation personnelle. C'est un immobilier plutôt mixte. On voit que le télétravail est quelque chose qui va s'installer, peut-être pas dans la même proportion bien évidemment qu'on l'a vu sur les 12 derniers mois, mais qui s'installe quand même de façon assez durable, qui transforme aussi à la fois la vision qu'on a de son habitation dans lequel il faut avoir un espace de travail, mais également l'espace de travail dans lequel on va peut-être chercher à créer peut-être plus de liens et d'émulation que ce qu'on pouvait en avoir. Il y a un phénomène green hein, ou écologique qui se mêle à ça. Je pense que c'est la fin des zones dédiées de bureaux et très silotées. Alors, en tout cas, dans leur conception, hein, ça ne veut pas dire qu'on va rater les zones de bureaux aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on va probablement arrêter de les concevoir comme ça. Et c'est un immobilier dans lequel l'humain, à mon sens, va être plus acteur qu'il ne l'était hier. Hein. Aujourd'hui, on l'écoute, mais on voit aujourd'hui des projets de co-construction où les gens se mettent à plusieurs pour construire ensemble, de co-financement ou de co-investissement, comme on le voit dans le crowdfunding. Voilà, donc, selon moi, l'immobilier de demain, c'est un immobilier où l'humain est plus acteur qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant.
D'accord, donc plus sur l'usage et le participatif, la mixité.
C'est ça, mixité, bien-être au travail comme à la maison et dans une logique un petit peu différente où les gens se réapproprient l'espace.
Merci beaucoup Vincent Hainaut, président de B4Deal, plateforme de crowdfunding immobilier. Merci pour cette intervention claire et sans langue de bois. Merci à toutes et à tous. Pour votre écoute. Donc, WAPI, on n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, hashtag OAPI, relayé sur tous les réseaux sociaux. Au mois prochain, merci beaucoup.
Au revoir.
On n'arrête pas l'IMO, une émission présentée par Céline Mahinck. On continue l'IMO sur fintech.imo.